On continue notre petite étude qu'on a commencée il y a quelques semaines sur la moisson des âmes. On est dans une période, comme Jésus a dit, « Levez vos yeux, regardez déjà les champs qui blanchissent pour la moisson. » Le Seigneur est déjà en train d'agir pour sauver des âmes. On voit que la parole est répandue, on voit qu'il y a des cœurs, des gens qui sont de plus en plus ouverts à vouloir recevoir le message. Mais on fait cette petite étude-là pour, en même temps, pour nous aider à chacun de nous dans notre marche chrétienne. On aimerait pouvoir partager le message de l'Évangile, puis on est maladroit, on ne sait pas comment, on a peur, on ne sait pas quoi dire. C'est pour ça qu'on en parle, pour qu'on puisse voir des versets dans le but de simplifier la chose. C'est parce que c'est pas compliqué de parler de Jésus, vous allez le voir dans les passages. Puis Jésus, il nous a enseigné à ses disciples l'ABC de l'évangélisation. Faut pas oublier que les disciples du Seigneur, là, qui étaient là auprès de Jésus, ça ne faisait que quelques mois qu'ils étaient convertis, que Jésus les envoyait déjà aller évangéliser. C'était pas des gens qui faisaient 30 ans qui étaient chrétiens. Ça faisait juste quelques mois qu'ils avaient entendu parler de la parole de Dieu. Puis déjà, Jésus les a donné comme le mandat d'aller répandre la parole, mais en même temps, il les a donné une méthode. Des choses précises qu'il nous demande de dire lorsqu'on veut évangéliser. Il a enseigné à ses disciples comment évangéliser. Ça faisait juste quelques mois qu'ils étaient sauvés, qui venait de reconnaître que Jésus était le Messie. Il connaissait pas la parole de Dieu selon l'enseignement du Nouveau Testament. C'était pas encore révélé. Il n'a pas vu Jésus mourir pour le pardon des péchés. Il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas encore compris. Puis c'est là qu'on voit que t'as pas besoin d'attendre d'être un théologien pour commencer à ouvrir la bouche puis parler de Jésus. Tu peux en parler même suite après, quand tu t'es converti, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es déjà prêt à commencer à en parler. Tu fais juste raconter ce que tu crois. Fait que les disciples, ayant quelques mois dans la foi, Jésus leur enseigne quoi dire, leur enseigner quoi dire et quoi faire lors de l'évangélisation. On voit ce passage-là dans Matthieu chapitre 10, les versets 5 et 6. Jésus s'était choisi 12 personnes parmi tous ceux qui l'entouraient, puis c'était devenu ses apôtres. Puis le mot apôtre veut dire envoyé. Fait que ces gens-là étaient devenus les envoyés, ceux que Jésus voulait envoyer. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Là, on voit que ça s'adresse aux 12 apôtres. Des nouvelles brebis. N'oubliez jamais ça, c'était du monde qui a beaucoup moins d'expérience de la parole de Dieu que la plupart d'entre nous. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Il dit, je vous envoie, mais je vous donne aussi des instructions pour ce que vous devez dire. Là, il leur dit au début, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Premier mandat, les disciples devaient aller évangéliser les Juifs. C'était les premiers visés à entendre le message de la parole de Dieu, du salut en Jésus, tout ça. Les Juifs étaient les premiers. C'est à cause, dans l'histoire, on a appris ça, c'est à cause que les Juifs ont rejeté Jésus, que le salut est devenu accessible aux païens. C'est qui ça, les païens? C'est nous. Les gens, tout dépendant de la traduction de la Bible, vous avez, des fois c'est les gentils, des fois c'est les Grecs, en parlant de ceux qui n'est pas juifs, il était grec, mais il y a beaucoup plus que des Grecs, il y en a de toutes les... Nous autres, on est des Canadiens, on était des païens ou des gentils, des gens que la parole de Dieu n'était pas destinée au début. Mais après ça, la parole de Dieu nous a été rendue accessible à cause que les Juifs l'ont refusée. Fait que là, Jésus leur a dit, allez voir les Juifs. Puis là, Jésus, il spécifie à ses disciples quelle devrait être notre présentation. Quand tu es envoyé par quelqu'un, Jésus a donné comme le mode à suivre. La première chose dans Matthieu, encore dans Matthieu, mais le verset 7. Allez, là il leur dit aux disciples, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Première chose que Jésus nous enseigne d'expliquer aux gens. La première affaire que tu veux expliquer aux gens, c'est de leur dire que le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Il s'est approché des gens. Je dis pas qu'il est proche dans le sens que son retour va revenir. C'était pas dans ce sens-là. Il est proche, le royaume de Dieu. Il est rendu jusqu'à chez vous. Je suis là pour te parler du royaume de Dieu. Je suis le royaume de Dieu. Vous êtes le royaume de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous lui appartenez. Vous faites partie de son royaume. Vous devez dire, je suis un enfant de Dieu. Je fais partie du royaume de Dieu. Y croyez-vous que vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes le royaume de Dieu? Puis lorsque vous vous approchez des gens, leur dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous êtes les représentants du royaume de Dieu. Ça, je pense que quand Jésus a dit cela à ses disciples, il voulait que ses disciples s'identifient à ce rôle-là. Il voulait que les disciples comprennent que nous sommes les représentants de Dieu, nous sommes le royaume de Dieu, des ambassadeurs pour Dieu, des envoyés de Dieu. Les premiers disciples, ils venaient de commencer à croire en Jésus, puis tout de suite, il leur a dit, allez-y, puis dites-leur que le royaume de Dieu est proche. La première chose qu'une personne doit dire aux autres, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Des fois, on va dire, dans d'autres mots, c'est pas un hasard que je me retrouve ici. C'est parce que Dieu m'a envoyé te parler. Tu sais, souvent on dit ça, cette phrase-là, mais ça revient à la même chose. Je suis un envoyé de Dieu, c'est pas un hasard. C'est Dieu qui s'avance vers toi pour venir te dire son message. Dieu veut te parler. Dieu, il t'aime. Puis là, je fais partie du royaume pour venir te l'annoncer. La première, comme je l'ai dit tantôt, la première chose que Dieu veut faire comme impact avec ce verset-là, c'est qu'il veut que vous soyez conscient que quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu es pardonné de tes péchés, il t'a donné le Saint-Esprit, tu fais partie du royaume de Dieu. Il t'a changé de camp, tu étais dans le camp des ténèbres, puis quand tu donnes ta vie au Seigneur, il te sort du camp des ténèbres, de la puissance des ténèbres, puis il t'emmène dans son royaume. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Il veut que tu sois conscient de cela. Puis quand tu rouvres la bouche, parle comme un enfant de Dieu. Parle comme quelqu'un qui est convaincu. C'est comme si j'enverrais quelqu'un qui travaille, mettons, moi je suis propriétaire d'une compagnie de crème glacée, puis j'ai un vendeur sur la route. Puis mon vendeur, il arrive chez son client, je sais pas qu'est-ce que je fais ici, je sais pas pourquoi, que si je m'en viens te présenter, je sais pas qu'est-ce que j'ai à dire, je sais même pas qu'est-ce que j'ai à vendre. Quelle sorte de représentant qu'on arrête. Ah, est-ce qu'il vendrait de ma crème glacée?
Non.
Non, il vendrait pas grand-chose s'il sait pas qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il y a à faire comme ouvrage. Ben, on est pareil, frères et sœurs. Nous sommes le royaume de Dieu, on est envoyé pour parler aux gens qui nous entourent, mais si on ne sait pas qui nous sommes, puis qu'est-ce qu'on a à dire, on va vendre quoi? On va être capable de passer le message? C'est pour ça que Jésus a enseigné à ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, dites-leur que le royaume s'est approché d'eux. C'est pas un hasard qu'on se retrouve ici. Dieu nous guide vers vous. Dieu a arrangé la circonstance pour qu'on se parle. Dieu il est là puis il veut te parler. Ça, c'est l'introduction. Ça nous fait comprendre que nous, on n'est pas là par hasard non plus. On est dirigé par Dieu pour aller parler du Seigneur. Amen. Puis là, il dit dans cette même phrase-là, « Allez, prêchez et dites. » Allez, ça veut dire « Reste pas ce que t'es, vas-y. » Il dit ça à tous ses disciples, encore aujourd'hui. Vas-y, parle, prêche, annonce, explique ce que tu as compris, ce que tu as cru, puis ce que Jésus a fait dans ta vie. Le mot prêcher, là, dans cette phrase-là, C'est Louis Sagon qui a écrit le mot prêcher. Ça veut dire prêcher, publier, proclamer, crier ou un prédicateur. C'est quelqu'un qui parle et qui parle de Jésus, du royaume de Dieu, de la parole de Dieu. Il annonce. Fait qu'on est tous appelés à être des gens qui prêchent, qui publient, qui proclament, qui crient. Des prédicateurs, c'est ce qu'on est. On devrait tous être des gens qui annoncent. Puis ça, dans l'image de ça, pour ce mot-là, c'est être un héros. Pas un super-héros, H-E-R-O-S. C'est héros, H-E accent aigu, R-A-U-T. Un héros, c'est quelqu'un, quand tu voyais, mettons, je sais pas, vous avez déjà remarqué ça dans un film, il y a une grosse armée dans un grand champ, puis une autre grosse armée, puis les deux armées sont sur le bord de s'affronter dans un combat. Puis là, il y a une personne qui s'avance avec son cheval, qui part d'une armée, puis il s'en va, puis là, il parle dans le nom de son roi, puis il dit mon roi, il dit ça. Il était jusqu'en face de l'autre armée pour aller dire mon roi dit ça. Mais le personnage qui est sorti du camp à cheval pour aller parler, puis proclamer les choses, puis parler dans le nom de son roi, c'est un héros. H-E accent aigu, R-A-U-T. C'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Il dit « allez prêcher ». Le mot « prêcher », c'est être un proclamateur, un héros de Dieu, quelqu'un qui parle dans le nom de Dieu. Le royaume de Dieu s'est avancé, puis là on est envoyé pour aller le dire. Vous êtes des héros de Dieu, vous qui avez fait la paix avec Dieu, vous appartenez à Dieu. On doit proclamer à la manière d'un héros. Il dit « allez prêcher et dites ». Si t'arrives là, je ne sais pas, moi, là. Mais là, on pourra pas faire une grosse impact. Faut savoir qui ce que nous sommes, puis parler. Le roi ordonne telle affaire, puis si ça arrive pas telle affaire, il va vous arriver telle affaire. Regardez les combats, là, entre l'armée des Philistins, puis l'armée... Regardez l'histoire avec l'armée juive, puis là, il y en a un qui s'avançait, puis qui parlait dans le nom de son Dieu, puis il insultait l'armée du Dieu vivant. Puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On voit que Dieu a défendu son nom, puis le géant Goliath, il s'est fait trancher la tête. Mais le point est, c'est le gars qui s'avance pour proclamer dans le nom de son roi ou de son Dieu. C'est ce que nous sommes, frères et sœurs. On doit publier, proclamer ouvertement quelque chose qui s'est passé ou proclamer publiquement l'Évangile. Puis ce qui concerne l'Évangile, ça, c'est comme tu vois Jean-Baptiste, Jésus, les apôtres, puis les autres enseignants chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu peur de parler en public pour d'annoncer, même si le Saint-Hédrin dit « parlez plus dans le nom de Jésus », mais il dit « essayez de nous dire ce qui est le plus important, de plaire à Dieu ou de plaire aux hommes. » Ils se sont pas laissés arrêter de proclamer. Ils ont annoncé quand même ce qu'il y avait à dire. C'est de même qu'il faut être, frères et sœurs. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que la même approche que Jésus a dit ça à ses 12, mais il a dit exactement la même chose aux 70 disciples qu'il a envoyés évangéliser. Dans Luc 10, le verset 9, il dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Il a dit la même chose au 70. Jésus veut, je pense qu'il veut, parce qu'il l'a utilisé deux fois, cette technique-là. Il l'a dit aux 12, puis il l'a dit aux 70 disciples. « Allez les voir, puis dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. » Comment? Parce que vous êtes là. Vous êtes un représentant du royaume de Dieu. Puis quand vous vous approchez d'une personne pour y parler de Jésus, vous êtes un héros de Dieu qui s'en vient dire le conseil de Dieu à cette personne-là. Donc, le royaume de Dieu s'est approché. On se sent-tu gêné de dire qu'on fait partie de la famille de Dieu, qu'on est des représentants de Dieu? Faut pas être gêné, frères et sœurs. Il faut réaliser que nous sommes des représentants du royaume de Dieu. Faut pas qu'on ait de doute, puis qu'on se sente mal à l'aise. Comme le gars qui vend du chocolat ou qui vend de la crème glacée, s'il est gêné de parler de sa crème glacée, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Il est là pour en parler de la crème glacée puis d'expliquer comment elle est bonne sa crème glacée, puis elle est meilleure, puis elle a des avantages. Faut que tu mettes en valeur les choses, faut que tu sois convaincu de ton produit. Mais nous, dans le Seigneur, si on n'est pas convaincu que Jésus peut les sauver, on va avoir de la misère. Faut être convaincu que nous sommes sauvés, nous sommes du royaume de Dieu, je suis envoyé, c'est pas un hasard, puis là, je suis en train de te dire que le royaume de Dieu s'est approché de toi, puis je suis là pour te dire la vérité. Jésus t'aime, mais il aime pas tes péchés, puis il faut que tu passes par Jésus pour être pardonné. Les choses de base. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19, ça nous le dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » On n'est pas des étrangers quand on a donné notre vie au Seigneur. On n'est plus des étrangers ni des gens du dehors, mais on est des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On est là pour représenter Dieu. Ça nous le dit aussi dans 2 Corinthiens 5, 20. Ça nous dit que nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, en disant, « Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Quand on a un ambassadeur, c'est comme la même chose qu'un représentant de vendeur de crème glacée, mais un ambassadeur, c'est un plus haut niveau, c'est au point de vue du gouvernement. Ils font des ambassades dans des différents pays, c'est qu'il y a un représentant du gouvernement qui est placé dans un autre pays, puis il est là pour parler dans le nom de son pays. Puis faire exercer des droits selon son pays. Fait que nous, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. On est là pour annoncer aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous avez des doutes, Jésus dit, dans Luc 10, le verset 3, c'est encore, il dit, partez, voici, je vous envoie. Comme des agneaux au milieu des loups. On ne fait plus partie du monde. On est des brebis du Seigneur, mais parmi des loups. Mais il nous le dit quand même, je vous envoie. Nous sommes des envoyés. Nous sommes envoyés ici à Beauharnois. Ce n'est pas pour rien qu'on est ici. Il veut qu'on répande la parole à l'endroit où ce qu'il nous a placés. Si on habite Valleyfield, il veut qu'on parle de Jésus à Valleyfield. Si on habite Beauharnois, il veut qu'on parle de Jésus à Beauharnois. Si on habite Châteauguay, à l'endroit, commencez dans la ville où ce qui vous a placé. Vous êtes des ambassadeurs, des représentants. Quand tu parles dans le nom de Jésus, puis que tu es là, là pour le représenter, tout ce que tu dis compte. Puis s'ils vous reçoivent pas, ou ils reçoivent pas vos paroles, sont en train de rejeter Jésus. On est des envoyés. S'ils nous écoutent, ils vont recevoir Jésus. Puis s'ils rejettent le message, sont en train de rejeter Jésus. C'est ce que ça nous dit dans Luc 10, le verset 16. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette, celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Si tu es en train de rejeter un disciple de Jésus, tu es en train de rejeter Jésus, tu es en train de rejeter Dieu le Père. Si quelqu'un te parle de Jésus, puis tu le crois, puis tu reçois son message, tu es en train de recevoir Jésus. Quand un disciple, un ambassadeur de Jésus, va à quelque part, puis il s'affiche, puis il commence à parler dans le nom de Jésus, Jésus, il back vos paroles. Jésus est avec vous, puis Jésus, il veut qu'on ouvre la bouche, puis qu'on dise tout simplement ce qu'on a compris, ce qu'on a cru, ce qu'on a vu. Puis Jésus, il dit, si vous ils écoutent pas, s'ils reçoivent pas ce que je vous dis, ils sont en train de me rejeter. C'est-tu important, qu'est-ce qu'on est en train de dire, vous pensez? C'est très important parce que ça peut avoir un impact éternel dans la vie des autres personnes. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention de ne pas dire de menterie, de ne pas dire des fausses affaires, puis induire le monde en erreur. Il faut rester dans ce qui est écrit dans la parole. Faut pas, c'est pas une religion qu'on est en train d'expliquer. On parle du Sauveur du monde, de l'envoyé du Père, qui est venu dans le but de pardonner les péchés de l'humanité, que tous ceux qui vont aller à Jésus pour recevoir le pardon, ils vont être pardonnés de leurs péchés, puis ils vont avoir la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu veut faire. Puis il veut le faire à tout le monde qui sont autour, mais ça prend des gens qui y vont, des envoyés. Puis Jésus dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Prenez garde, faites attention, mais tout ce que vous allez dire aux gens, Jésus, il va backer ce que vous dites. Puis s'ils n'écoutent pas le message du salut que vous leur expliquez, ils sont en train de rejeter Jésus, puis de rejeter Dieu le Père. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, on n'aura pas de traitement de faveur parce qu'on est son représentant. Ils nous traiteront avec bienveillance ou rejet de la même façon qu'ils reçoivent Jésus ou s'ils rejettent. S'ils sont prêts à recevoir Jésus, ils vont nous recevoir. Mais s'ils veulent rien savoir de Jésus, ils voudront rien savoir de nous. On n'a pas de traitement de faveur. Ça peut arriver que des gens nous rejettent. Là, des fois, on est tout reviré à l'envers. Mais il y en a que c'était raide de la manière qu'ils ont été rejetés. Ils ont été frappés, flagellés, battus de coups de bâton, fouettés. Il y en a qui ont été lapidés parce qu'ils parlaient de Jésus. Il y en a qui ont été mis à mort, comme Étienne. Étienne, ils l'ont mis à mort, ils l'ont lapidé parce qu'il parlait de Jésus. Ça peut arriver. Jésus le savait-tu qu'Étienne se faisait tuer? Oui, Jésus savait qu'Étienne est en train de se faire tuer. Jésus était-tu là? Oui, Jésus était là à côté d'Étienne. Étienne, il a levé ses yeux dans les airs, puis il a vu Jésus à la droite de Dieu. Jésus s'est révélé à Étienne dans son moment difficile. Jésus nous accompagne quand on va évangéliser. Si on se fait moquer de nous, Jésus le voit. Jésus va consoler, Jésus va nous protéger, ou si on a à subir des moqueries ou des coups ou quoi que ce soit, faut l'accepter, puis Jésus est en contrôle, puis il accepte que ça se passe. Puis c'est écrit dans la fin des temps qu'il va être permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça peut arriver que des chrétiens se fassent trancher la tête. Ça peut-tu arriver?
Oui.
Ça l'arrive déjà dans certains pays. Des pays musulmans, des chrétiens qui sont faits couper la tête au complet, vivants, puis direct sur la place publique, puis ils tranchent la tête. Ça l'arrive. Ces gens-là n'étaient pas plus méchants. C'était des chrétiens comme nous, des gens qui aimaient Jésus, mais ils n'étaient pas gênés de parler de Jésus. C'était pas des gens qui restaient chez eux, puis qui faisaient rien, non. C'est des gens qui ont pris position pour Jésus, le monde les a entendus, puis ils savaient que c'était un chrétien, ils sont allés les chercher, peut-être dans leur église, peut-être chez eux, ils sont allés les chercher, puis les ont maltraités. Est-ce que Jésus était là? Oui, Jésus était là. Est-ce que Jésus les aimait? Oui, Jésus les aimait. Est-ce qu'ils vont être récompensés? Oui, ils vont être récompensés. Chaque moquerie, chaque affaire qu'on supporte à cause du nom de Jésus, Jésus va nous récompenser. Mais le point important, c'est qu'il faut y aller puis prendre position pour Jésus. Parler de Jésus ouvertement. Pas être des chrétiens timides ou enfermés dans la peur. Parce que ça peut arriver qu'on soit dans la peur et qu'on n'ose pas parler. Justement, dans cette idée-là, dans Matthieu 10, 24, à 26, Jésus le dit qu'on va être traité de la façon qu'on traité Jésus. Le disciple, il n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Là, le verset 26, c'est le plus important. C'est pas le plus important, ils sont tous importants, mais il y a un grand impact pour nous. Ça dit, ne les craignez point. On n'a pas à craindre les hommes. Ils vont-tu me faire mal? Ils vont-tu rire de moi si je parle de Jésus? Faut pas avoir honte. Faut pas être gêné. Faut pas devenir paralysé puis poser. Jésus, lui, il était au front, puis il a dit tout ce qu'il avait à dire, puis même si ça faisait pas plaisir, il y a du monde qui ont spiné de tout ça, comme qu'on dirait en bon canadien français, quand ils ont entendu les paroles de Jésus, qu'il lui traitait de sépulcre blanchi ou des choses de même, ou d'hypocrite, homme faux, parce que les gens, ils étaient pas francs devant Jésus. Puis là, il dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Tout ce qui s'est passé quand vous avez parlé de Jésus, Jésus a tout vu, puis il a tout gardé en sa mémoire, puis il va faire rendre compte aux gens à la fin des temps. S'ils sont moqués, s'ils ont ri, s'ils vous ont battu, donné des coups, ou s'ils vous ont fait mal, ou s'ils iraient jusqu'à vous tuer, il dit, craignez-les pas. Craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et après peuvent rien faire. On doit craindre Dieu, on doit faire notre job. Puis Dieu va faire la sienne, puis il va être là. Mais c'est arrivé, par des témoignages que j'ai entendus, que Dieu a opéré, même dans la Bible aussi, on le voit, Dieu a opéré de grandes délivrances à certains de ses enfants qui ont été pas mis à mort, mais ils ont été mis en prison, puis Dieu les a libérés. L'apôtre Pierre est en prison, puis les disciples priaient pour l'apôtre Pierre, puis il a sorti un ange du Seigneur qui est envoyé pour aller le sortir de la prison. Fait qu'on peut s'attendre de voir des miracles, même dans l'Ancien Testament, Shadrach, Meshach, Abednego, qui était dans la fournaise ardente, puis il y avait un quatrième personnage qui était dans la fournaise avec eux, c'était un ange du Seigneur, qui était là pour venir, puis ils sont sortis du feu, puis ils sentaient même pas le brûler, puis le linge avait rien, aucune brûlure, même pas sentir le feu. Ils avaient reçu une protection. Fait que, je dis pas qu'on va recevoir des coups à tous les fois qu'on va évangéliser, pas du tout. Il y en a qui évangélisent depuis des années, ils ont jamais même eu une grimace quasiment. Tu sais, dans le sens, tout ce qu'ils font, c'est accueilli. Mais croyez que Dieu est avec vous, puis si ça arrive que vous êtes dans des situations difficiles, croyez que Dieu est capable de vous en sortir. Puis si Dieu vous permet que vous soyez dans, mettons, en prison ou quoi que ce soit, mais croyez que c'est dans le plan de Dieu, puis Dieu voit tout ce qui est en train de se passer, puis vous allez être récompensé pour les souffrances que vous avez eues à cause de son nom. L'important, c'est d'ouvrir la bouche, puis le Saint-Esprit va la remplir. Luc 21, verset 15. Il dit, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Quand Dieu y inspire quelqu'un, je suis sûr que vous avez vécu ça, des moments où vous avez évangélisé, puis vous avez trouvé que les paroles sortaient tout seul, les versets, ça sortait tout seul. Mais ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Il vous inspire, il vous donne l'assurance que ça sort tout seul. Mais il faut y aller évangéliser accompagné du Saint-Esprit. Priez avant d'y aller, demandez à Dieu de vous remplir, puis là, go, allez évangéliser. Jésus nous demande d'annoncer ce qu'on a appris de lui. Dans Matthieu 10, 27, ça nous dit, ce que je vous ai dit dans les ténèbres, c'est Jésus qui parle, ce que je vous ai dit dans les ténèbres, ça veut dire, quand vous vous réveillez à 3h du matin, puis que là, vous pensez à Dieu, puis là, moi, ça m'arrive, je pense à Dieu, je prie Dieu, ou je médite sa parole, puis j'ai des révélations. Mais ça, là, c'est Jésus qui nous parle dans les ténèbres. Il fait noir, c'est la noirceur, c'est la nuit. Mais même quand ça peut arriver dans le jour aussi qu'il nous parle, mais Jésus dit dans ce passage-là, ce que je vous ai dit dans la nuit, dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Fait que c'est pas compliqué, on fait juste répéter ce que Jésus nous a déjà expliqué, ce qu'on a compris, ce qu'il nous a enseigné. Puis les choses, si tu restes dans les choses de base, tu te trompes pas. On va le voir un peu plus la semaine prochaine, c'est quoi les choses de base. L'important, c'est d'amener les gens à confesser leur foi en Jésus. Faut que les gens le confessent de leur bouche, qu'ils croient en Jésus. Fait que t'es là pour leur expliquer que Jésus est mort sur la croix pour pardonner leurs péchés. Fait que si les personnes y croient, ben tu dis, tu veux-tu faire la prière pour le confesser? Puis là, la personne va dire oui. Puis là, tu fais la prière avec cette personne-là pour que la personne le dise qu'elle croit que Jésus est mort sur la croix pour pardonner ses péchés. Dans Matthieu 10, 32, vous allez voir, toute la plupart des versets, c'est dans Matthieu 10, quand Jésus est en train d'enseigner comment évangéliser. Il leur dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera. » Faut que la personne le dise de sa bouche, « Oui, je le crois. » Faut qu'elle le fasse dans une prière. Il dit, « Quiconque, ça veut dire n'importe qui confesse devant les hommes, c'est comme quand tu te maries. » T'as ta femme, toi, puis là, celui qui te marie, il dit, « Daniel, oh, tu promets-tu, tu veux-tu prendre comme épouse ta femme, puis etc., etc. » Oui, je le veux. Je le confesse devant tout le monde. Oui, je le veux. Puis elle aussi va dire, « Oui, je le veux. » Puis ça, elle le fait pas, puis elle se sauve, t'es pas marié. C'est de valeur. Mais pour être marié, il fallait qu'elle le dise elle aussi. Juste un des deux se passait. Mais devant Dieu, pour être pardonné, c'est la même affaire. Il veut que tu le confesses devant les hommes, puis dis, oui, je crois que Jésus, il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je l'accepte comme mon sauveur. Je le veux comme mon sauveur, puis mon Seigneur. Je veux le suivre, je veux le servir. Si tu le confesses, qu'est-ce qui se passe quand on confesse? Dans Matthieu 10, 32, il dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ça veut dire, si j'ai pas honte de Jésus, puis je l'affiche ma foi, je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Mais mec, on arrive l'autre bord, Jésus va être devant son Père, puis il va dire, « Viens, Daniel, je confesse que Daniel, c'est mon disciple. Daniel a confessé mon nom devant les hommes. » Puis là, Jésus va confesser mon nom devant son Père. Oui, c'est un disciple. Puis je vais rentrer. C'est la même chose pour chacun de vous. Vous avez à confesser. C'est vrai qu'on l'a accepté quand on a accepté, voilà, X années. Mais j'espère que c'était pas la seule fois que vous avez confessé que vous croyez en Jésus. Moi, ça fait 35 ans que j'ai accepté Jésus. Si je me fie juste sur le fait que, voilà, 35 ans, j'ai cru en Jésus, que je l'ai confessé, puis là, que j'ai fait pendant ces 35 ans-là, j'espère que je l'ai reconfessé une couple de fois. Tu sais, il faut pas se gêner, là. Si là, je commence à avoir honte de sa parole, puis je veux plus en parler, mais ça, la confession, c'est toute ta vie que tu vas faire ça. Puis où tu vas la faire, la confession, c'est quand tu en parles à ceux qui t'entourent. Tu parles devant les hommes que tu crois. C'est aussi simple que ça. Dieu te voit en train de confesser ta foi. C'est ça qui fait que tu es sauvé. Il te pardonne à cause de ça, parce que tu n'as pas honte de lui, parce qu'il voit que tu l'aimes. Puis tu es prêt à prendre position. Même en plus, si tu te fais frapper, tu te fais ridiculiser, tu te fais rire de toi, Jésus le voit. Puis il va prendre ta faveur, puis il va te bénir, puis mec, tu arrives l'autre bord, tu vas avoir des récompenses pour tout ce que tu as passé à travers. En entrant chez une personne, là, j'ai dit, la première chose que vous devez lui dire, dites, le royaume de Dieu s'est approché, je suis un ambassadeur de Jésus, je représente le royaume s'est approché. La deuxième affaire que Jésus nous demande à dire, hein? Ça, c'est que ça tombe quasiment dans le premier, mais la deuxième affaire, t'as même pas encore réellement expliqué rien. Jésus dit, dans Matthieu 10, les versets 12 à 14, il est en train d'expliquer à ses disciples comment évangéliser. Il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Puis si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. » Quand il saluait dans ce temps-là, il disait « Shalom », ça veut dire « paix ». Il souhaitait le shalom où ce qui rentrait. Paix soit sur cette maison. S'il y a quelqu'un, là, tu sais même pas s'ils vont accepter Jésus ou pas. Tu sais même pas s'ils vont te rejeter. Que la paix soit sur cette maison. Que le Seigneur vous bénisse. Tu sais, des formules de bénédiction qu'on se dit entre chrétiens, mais c'est la même chose. Tu le dis la même chose aux gens quand tu rentres. Jésus dit, dis-les, paix. Paix sur cette maison. Puis s'il y a quelqu'un là qui accepte Jésus, votre paix va tomber sur lui. La bénédiction que vous avez parlé, elle va tomber sur cette personne-là. Puis s'il y a personne qui croit dans cette maison-là, votre bénédiction va vous revenir. C'est ce que Jésus a enseigné. On voit ça dans Matthieu au chapitre 10. Puis Jésus a repris la même affaire quand il a parlé aux 70. Ça, c'est au 12 qu'il dit ça là, dans Matthieu, puis dans Luc, il reprend la même approche pour les 70 disciples. Il dit dans Luc 10, 5, il dit « Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Puis s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix va reposer sur lui, sinon elle reviendra à vous. » Fait que Jésus a expliqué la même affaire aux 12 comme qu'il l'a expliqué aux 70. Je pense que Jésus savait qu'est-ce qu'on devait faire. Hein? S'il l'a expliqué deux fois de la même façon aux 12 et aux 70, je pense que c'est important qu'on apprenne à bénir les maisons. Quelles sont les bénédictions de Dieu qui sont sur une maison qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui n'ont jamais servi Dieu? Puis, il se passe toutes sortes de péchés dans cette maison-là. Toutes les maisons, il s'en passe des péchés. Mais quand tu es chrétien, tu as demandé pardon, il sent que Jésus te couvre, tu es couvert, tu es sous la bénédiction de Dieu. Mais tu rentres dans une maison où ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, ils ne savent pas c'est quoi le chemin. Puis nous autres, ici, les Québécois, on est fort là-dessus, les sacs à tous les jours, les jurons, les malédictions, les vols, les mensonges, toutes sortes d'affaires qui se passent dans les maisons. Quand tu rentres là en tant que disciple, ce qu'ils ont besoin de plus, ce monde-là, c'est une bénédiction de Dieu. Ils n'ont jamais eu de leur vie des touches de la présence, de la paix de Dieu, de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu. Mais vous transportez ça en vous, puis vous êtes là pour aller le porter à ces gens-là. Dans 1 Pierre 3:9, ça dit « Rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Il dit « Bénissez. » On est là pour lancer bénédiction sur le monde, pour bénir le monde qui ne connaissent pas Dieu, mais on bénit aussi les ceux qui connaissent Dieu, mais ils ont besoin de la bénédiction de Dieu. Puis s'il y a une personne dans cette maison-là qui accepte le message de l'Évangile, votre bénédiction va tomber sur lui. N'est-ce pas extraordinaire? Ça veut dire que Jésus, il répond à notre bénédiction. On prononce la bénédiction, puis Jésus va l'accomplir. C'est extraordinaire. Puis Jésus, il n'est pas menteur. Une autre affaire que Jésus a dit à ses disciples, le message doit être aussi accompagné de prières pour ces gens-là. Tu rentres dans une maison, tu dis, le royaume de Dieu s'est approché de vous, que le Seigneur vous bénisse. Puis là, quand tu expliques les affaires, ils vont sûrement arriver et te dire qu'ils ont tel besoin, tel problème, ils sont malades, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai un problème ici, j'ai un problème là. Y en a-tu des familles qui n'en ont pas de problème? Il n'y a pas grand famille qui n'ont pas de problème. Jésus dit, dans Matthieu 10 encore, le verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Fait que Jésus veut qu'on prie pour les personnes. Ah, oh, mais j'ai jamais prié. Il est temps qu'on commence à prier. On apprend dans les réunions de prière comment prier. Après ça, on va être capable d'arriver On rencontre quelqu'un, on voyait parler de Jésus, puis elle te confie qu'elle a un problème. Tu veux-tu qu'on prie, Seigneur, pour ton problème? Tu viens de lui dire que tu viens dans le nom du Seigneur, que tu l'as béni, puis là, tu dis, viens, on va prier. Là, tu pries pour son besoin, puis Dieu va répondre. Dieu va agir. C'est plus notre département. Après, on a fait ce que Dieu nous demande. Puis Dieu va répondre. Puis Dieu va bénir la personne parce qu'elle a reçu votre message. Le reste du travail, c'est le travail de Dieu. Mais notre travail, c'est d'y aller, d'annoncer ce qu'on est, bénir cette famille-là, prier pour les personnes, puis on laisse le reste à Dieu. On le voit dans Marc 16, le verset 20. Il dit, les disciples s'en allèrent prêcher partout. Comme des héros de Dieu s'en allaient annoncer le message chez les représentants. Ils ont prêché partout. Puis le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Fait que les disciples n'étaient pas tout seuls quand ils vont évangéliser. Le Seigneur travaillait avec eux. Pensez-vous que Jésus n'a pas à cœur les gens qui sont autour? Il les aime autant qu'il nous aimait avant qu'on se convertit. Même si on était des pourris, des pécheurs, de tous les styles qu'on peut imaginer, on était tous différents, mais Dieu nous aimait, puis il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque, nous, on croit en lui, puis on ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. N'est-ce pas extraordinaire? Il nous aimait tellement qu'il a tout fait pour qu'on puisse être sauvé. Fait que le Seigneur va faire la même chose qu'il a faite pour nous, il va le faire pour les autres. Puis dernière affaire, ça peut arriver que les gens refusent le message qu'on annonce. C'est arrivé aux disciples d'évangéliser, puis qu'ils ont été rejetés, empêchés, mis en prison, battus de verges, toutes sortes d'affaires qui est arrivées. Qu'est-ce qu'on doit faire quand les personnes ne reçoivent pas le message? C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Mais on doit les laisser en confirmant qu'ils ont été approchés par des représentants du royaume de Dieu. On doit leur dire, on va le voir, on va le lire dans Luc 10:10. Mais dans quelque ville que vous entriez puis qu'on vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Puis je vous le dis, c'est Jésus qui parle, je vous le dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ça peut arriver que les gens ne reçoivent pas le message de l'Évangile. Jésus dit, dans un sens, soyez pas découragés, c'est pas de votre faute. Secouez la poussière, puis dites-leur encore une autre fois que le royaume de Dieu est venu vers vous. Puis quand il va arriver le jugement, le jour du jugement, ces gens-là vont être traités pire que qu'est-ce que les gens ont été traités à Sodome par le jugement de Dieu. Dieu veut nous apprendre là-dedans à lui faire confiance. Quand on va aller parler de Jésus, faut qu'on ait confiance que Dieu est avec nous, que Dieu voit tout ce qui nous arrive. Il nous accompagne. Il va travailler avec nous pendant qu'on est en train d'évangéliser. Il va répondre aux prières. Il va mettre la bénédiction de Dieu sur les gens. Puis Dieu, il va nous récompenser selon le travail qu'on aura fait. Il nous appelle à aller. Qui est prêt à aller? Qui veut aller travailler pour le Seigneur? Le Seigneur fait un appel aujourd'hui. C'est pas à cause que je vous le dis, c'est écrit dans la parole, mais il cherche des gens qui sont prêts à se lever puis proclamer le nom de Jésus ouvertement avec la bénédiction qui va avec. Jésus va atteindre les gens qui nous entourent. Je vais faire une prière s'il y en a qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. S'ils se disent, moi, je le crois que Jésus est mort sur la croix, mais j'ai jamais confessé de ma bouche que je croyais, puis j'ai jamais reçu le Saint-Esprit pour que ma vie change. Mais je voudrais le faire. Mais je vais vous donner l'occasion ce matin d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. On va faire une prière, puis je vous demande de répéter cette prière-là avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je crois que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne tous tes péchés. À cause de Jésus, pas à cause que c'est une religion, c'est Jésus qui est là présentement, puis il voit votre confession. Puis celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Il vous a pardonné, il vous a donné le Saint-Esprit, il y a une nouvelle vie qui vient de commencer. Marchez avec le Seigneur, persévérez dans le chemin du Seigneur. Joignez-vous à une église évangélique où ce qui prêche la parole de Dieu, puis travaillez avec les chrétiens pour répandre le message de l'Évangile, puis le Seigneur va bénir le travail de vos mains. Amen.
Amen.
Gloire à Dieu.